Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Terre humaine. Dans les deux mots qui forment le nom de la célèbre collection créée en 1954, il y a déjà un condensé de tout le projet éditorial de Jean Mallory. Un projet éditorial qui sera véritablement lancé l'année suivante, en 1955, avec la parution de deux ouvrages qui auront une influence considérable dans le monde de la recherche et dans l'opinion publique. « Les derniers rois de Tulé » par Jean Mallory lui-même et « Triste tropique » par Claude Lévi-Strauss. Deux textes exigeants qui se présentent comme des récits de voyage d'un genre particulier. Les auteurs y racontent des expéditions dans des terres lointaines, mais d'une façon assez différente de ce qui accourt alors dans les ouvrages d'ethnologie et d'anthropologie. Le compte-rendu de leurs travaux scientifiques se décline de façon très intime. Il faut dire l'expérience souvent difficile du voyage et des explorations autant que les résultats proprement dits des recherches de terrain. Voilà donc pour le projet qui trouve son public et qui connaît même un grand succès. Après Mallory et Lévi-Strauss, Terre humaine accueille d'autres grands noms de l'anthropologie, Margaret Mead, Pierre Clastres, Georges Balandier et beaucoup d'autres. Mais d'année en année, la collection s'ouvre aussi à des registres plus inattendus, avec des récits ancrés dans les régions et les traditions françaises, par exemple, de l'Auvergne à la Bretagne, on pense au Cheval d'Orgueil de Pierre Jacques Elias en 1975, mais on pense aussi à des récits d'un genre encore différent auprès des populations les plus marginalisées qui soient, les clochards de Paris, dans Les naufragés de Patrick de Clercq en 2001. Publication après publication, Terre humaine s'enrichit et se présente comme une bibliothèque de la condition humaine sur tous les continents. Au tournant du XXe siècle, il y avait donc bien de quoi se pencher non sur les peuples étudiés dans tous ces récits, mais sur la collection elle-même. C'est le travail auquel s'est attelé le professeur de lettres Pierre Aurégan, avec la bénédiction de Jean Mallory, dans une anthologie de la collection Terre humaine, publiée en 2001. Pierre Aurégan et Jean Mallory, que vous allez entendre tout de suite dans cette émission de Gilles Lapouge, enregistrée au Salon du Livre à Paris, le 16 mars 2001.
Dans un étrange pays, nous sommes encore aujourd'hui, comme nous sommes chaque vendredi. Et aujourd'hui, cet étrange pays, c'est celui du livre, puisque nous faisons cette émission depuis le Salon du Livre. Et nous allons parler de quoi ? Eh bien, de cette chose étrange qu'est le livre, d'un livre particulièrement. Ce livre, je l'ai sous les yeux et je vais décrire son allure. Peut-être certaines personnes vont-ils savoir de quel livre je parle. Il a une couverture noire. Le nom de son auteur est en jaune. Ce sont des lettres, une graphie assez épaisse, assez large. Et puis le sous-titre est en blanc. Non, le titre est en blanc. Alors, le nom de l'auteur, il est en jaune. Et ce livre, il a un intérêt particulier. Le livre dont nous parlons aujourd'hui, il y a derrière lui beaucoup d'autres livres. C'est-à-dire que masqué derrière ce livre, dont je vais dire le titre très bientôt, et existe toute une collection de livres. La collection la plus remarquable, la plus longue, je pense aussi, de toute l'édition française, cette collection, c'est « Terre humaine ». Donc maintenant, je donne le titre du livre dont nous parlons aujourd'hui. L'auteur est Pierre Aurégan. Le titre du livre, Des récits et des hommes. L'éditeur, Nathan et Plomb. Et il y a un sous-titre, Terre humaine, un autre regard sur les sciences de l'homme. Il s'agit donc de jeter un regard, pas tout à fait après 50 ans, mais presque 50 ans, sur cette collection Terre humaine, qui est tout à fait étonnante. Moi, je l'ai lu au fur et à mesure, comme beaucoup de gens, parce que c'est une collection qui a eu un succès considérable. J'ai toujours, presque toujours, admiré, je ne vois pas d'ailleurs de panne dans tous les livres, et dans tous les titres de cette collection, et je crois qu'il y a plus de 70 titres déjà. Il y en a qui m'ont enchanté, comme ils ont chanté tellement de gens, c'est-à-dire au hasard, je pense à l'été grec de la carrière, je pense à Lévi-Strauss, évidemment, avec les tropiques, Balandier, qu'il y a l'admirable Adji aussi, il y en a beaucoup, enfin nous allons en parler à l'instant. Et un historien, vous êtes historien, Pierre Aurégan ?
Professeur de lettres.
Professeur de lettres. Voilà. Ah, je crois que vous étiez historien.
Non.
De lettres, ah bon. Bon, un professeur de lettres, donc Pierre Aurégan, a eu l'idée, il y a quelques mois, je suppose, ou quelques années peut-être, de lire l'ensemble de cette collection et d'en faire un livre. Ce qui est, je crois, un cas unique. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a vu paraître, mais avec beaucoup plus de retard par rapport à l'événement, des livres très importants sur la NRF, par exemple, des livres importants sur le Mercure de France d'avant la guerre. Et là, ce qui est étonnant, c'est que la collection est toujours aussi vivante, elle est même en pleine forme, et qu'elle mérite, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, elle mérite une étude qui est très exhaustive, qui est très complète aussi, d'ailleurs. Votre livre, Des récits des hommes, a à peu près le même volume qu'un volume normal de la collection Terre humaine.
Oui, c'est cela, oui.
C'est cela. Il y a un petit peu, est-ce qu'il faut dire un mot sur l'éditeur ? D'ordinaire, c'est Plon, hein, l'édition. La collection est publiée chez Plon. Là, c'est une coédition ?
Oui, tout à fait. C'est une coédition entre Nathan et son département université qui a choisi de collaborer avec Plon. Plon facilitant notamment les droits d'auteur concernant les extraits nombreux qui illustrent le livre. Car le livre, c'est au fond un essai sous la forme d'une espèce d'anthologie raisonnée qui présente des textes, mais des textes que j'estimais être intéressants par leur dimension esthétique et par la manière dont ils éclairent la démarche caractéristique et plurielle de Terre humaine. Et donc, ça a été une coproduction, je crois, fructueuse à cet égard. Donc,
bien, et vous travaillez avec Nathan ou avec Plon ?
Alors, j'ai travaillé avec toute l'équipe éditoriale, voilà, de Nathan et avec Plon pour tout ce qui était le montage des textes, le choix des textes, le contact avec les auteurs.
Bon, voilà. Là, nous venons d'entendre la voix de Pierre Aurégan, c'est lui qui a écrit ce livre. Et nous avons évidemment demandé à Jean Mallory de venir, et je le remercie de s'être dérangé pour nous parler un petit peu de cette collection, qui est, je crois, enfin, une de vos passions quand même. Il y a une autre, enfin, il y a beaucoup de passions, j'imagine. Mais il y a deux grandes passions que nous connaissons. Il y a évidemment les terres arctiques, et puis il y a Terre humaine.
Bon, vous avez dit les deux principales passions. Et l'une entraîne l'autre. Terre humaine est née à Tulé. Je rappelle que
c'est-à-dire une de vos premières grandes expéditions arctiques.
Oui, qui ne cessera de m'habiter. Alors, je rappelle que Tulé est au nord du Groenland. Tulé n'est pas un lieu quelconque. Quand l'illustre ethnologue danois l'a appelé ce haut lieu qui est habité par le peuple plus au nord du monde, les Inuit, les Esquimaux polaires, ce n'est pas sans raison, parce que c'est un lieu porteur du génie, du pôle, qui est un espace mythique. Et cet espace mythique appelle des drames. Il y a eu les drames de la conquête du pôle, qui n'a pas été est toujours une histoire hagiographique, c'est une histoire violente, car l'homme manifeste là sa passion de conquérir l'espace et puis d'affirmer sa personnalité, planter le drapeau de son pays. Et j'ai suivi de très près, à travers les Inuits, cette marche cruelle et souvent mortelle vers le pôle. Et j'ai mieux compris qu'il y avait un envers de l'histoire. Ces grands hommes, quand on regarde leur carnet privé, on découvre une face que, hélas, dans nos carrières d'hommes, nous découvrons. C'est une face grise, c'est écarté, le collègue. Et dans l'article, c'est assez facile, il y a des crevasses. il y a aussi, quand nous sommes dans des toutes petites équipes, et les Inuits regardent avec horreur ces hommes qui se déchirent. Et tout ceci ne figure pas dans les documents officiels. Et une des principales expéditions de l'Amérique vers le pôle, dirigée par Charles Francis Hall, le compagnon, le chef scientifique, est un Allemand d'une expédition complexe, afin de prendre le pouvoir, donne une tasse de café avec de l'arsenic au chef d'expédition, qui meurt sous ses yeux. Et d'autant plus sous ses yeux qu'il est le médecin de l'expédition. Bon, vous voyez que c'est très théâtral.
Oui, mais en même temps, les traces, même les empreintes des crimes, durent beaucoup plus longtemps. Parce qu'il y a un autre livre, je crois que c'est pas vous qui l'avez publié, mais vous avez peut-être fait la préface, un livre d'un Américain qui dit qu'on a retrouvé, par exemple, une scène d'assassinat qui était, avec, supposons, 100 ans de retard, qui était comme Pompéi.
Absolument. Alors, un haut lieu appelle une histoire qui est constante, et sous mes yeux, dans cet espace habité par un peuple mythique, c'est le peuple plus au nord du monde, des Esquimaux, dont j'ai partagé intimement la vie, et je puis témoigner que j'ai connu l'allégresse d'un peuple innocent. Je ne vous cacherai pas que les Esquimaux est violent, criminel, mais il y a une allégresse chamanique, un panthéisme, une union presque quatre fois millénaire entre l'homme et l'ordre de la nature. Et j'ai été changé, j'ai vécu une mutation prodigieuse, un peu celle que Kurosawa a fait connaître avec Darzou Zala, ce géographe russe, Arseniev, qui est peu à peu habité par son compagnon Derzou, qui lui fait comprendre que la forêt est habitée par l'animisme. Mais l'histoire progresse pendant ma mission, et à la fin de ma mission, j'étais sur le haut d'un glacier et j'ai vu des Martiens s'abattre sur ce pays, c'est US Air Force. Et qui, nous sommes en 1951, l'Amérique est face à un péril tout à fait dramatique. L'armée américaine recule en péninsule de Corée. On va vers un désastre. L'armée chinoise avance avec l'armée coréenne. Et en grand secret, le plus grand des secrets, constituait cette base offensive nucléaire de Thule. Jusqu'à mon dernier souffle, je protesterai contre cette opération. Ce n'est pas parce que c'est l'Amérique, c'est parce qu'elle a été constituée sans l'aval de la population et au cœur de son territoire. En d'autres termes, il n'existe pas. They are nobody. Et quand il y a une mauvaise action, il y a une suite luciférienne. Et en 68, un gros bombardier s'est écrasé avec quatre bombes H. Trois se sont pulvérisées, donc contaminées nucléairement ces eaux virginales, et la quatrième est probablement encore sous les eaux. Mais l'action luciférienne se poursuit, et le président Bush Junior, George Junior, a décidé de constituer un bouclier antimissile, et Thule sera au centre du dispositif. Alors ma vie a changé quand j'ai assisté à cette agression contre une minorité qui ne peut parler parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Les gouvernements sont passifs et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit Les Derniers Rois de Thule qui a fondé la collection Terre Humaine.
C'est cela. Alors maintenant nous allons enchaîner sur la collection Terre Humaine parce que ce que vous dites est très éclairant, il me semble, sur la collection Terre Humaine. Mais auparavant je voudrais dire un mot sur le travail qu'a réalisé Pierre Horgan. Et pour moi, ça a été une révélation, ce livre que vous venez d'écrire, parce que, encore une fois, j'avais lu beaucoup de ces magnifiques ouvrages de Terre Humaine, mais il change complètement de ton et de contenu, presque, si on les éclaire les uns par les autres. Et au fond, c'est cela que vous avez fait. Hein. On s'aperçoit que Terre Humaine, alors là, c'est un mystère, comment vous y avez... vous êtes parvenu à cela. Je pense que vous ne l'avez pas fait exprès, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est si bien.
J'imagine. Hein. Vous l'avez dit. Non. C'est l'intuition. C'est pas une réflexion discursive.
C'est vrai, et je crois que Henri Mitterrand le dit dans sa préface. C'est, au fond, la collection Terre Humaine remplacera, certainement, remplace déjà, remplacera ce que, pour nous, constituent les grands cycles romanesques du XIXe siècle, les Rougon-Macquart, les Balzac, Stendhal, et même les Genesu. Enfin, tout ce qui nous donne une image, un portrait bougé, tremblé éternellement, du XIXe siècle. Alors à l'époque, c'était des romanciers. Aujourd'hui, ce ne sont plus forcément des romanciers, encore que vous avez quelques romanciers dans votre équipe.
Quatre, oui.
Ce ne sont pas des romanciers, mais même quand ils ne sont pas romanciers, ils font au fond le même travail.
Oui, tout à fait. J'ai voulu d'ailleurs dans ce livre insister sur cette dimension littéraire de Terre humaine, qui souvent n'était pas prise en compte par la critique. Terre humaine a toujours été extrêmement bien accueillie, favorablement par la critique, les journalistes. Mais la dimension littéraire était tout à fait secondaire, jamais abordée. C'était essentiellement considéré comme des documents, des témoignages, parfois bruts, parfois violents. Je pense par exemple au témoignage terrible sur les X de Turnbull. Mais toute cette dimension littéraire, c'est-à-dire toutes ces formules narratives, si diverses qui sont employées par de très nombreux auteurs, que ce soit, je dirais, le roman, ce qu'on appelle le roman épique à la Jules Verne de Jean Mallory, que ce soit cette espèce de journal éclaté de la carrière dans l'été grec qui va et vient entre les périodes.
Oui, qui est une démarche presque poétique, voilà. Mais qui en même temps a une pénétration presque ethnologique, voilà, formidable.
Tout à fait, et qui dit je peins pas la Grèce classique, mais des Grèces multiples et populaires, ou que ce soit les formules de la promenade du Dédale à travers les villes qu'on trouve dans le croissant baroque, par exemple de Fernandez, ou bien dans cet autre ouvrage magnifique, Praga Magica.
Oui.
On retrouve justement cette idée de quelqu'un qui flâne. Dans Terre humaine, il y a cette flânerie aussi. Donc ces formules narratives sont parfois même très savantes. Je pense à la publication de Suerte, qui est un roman, mais autobiographique, extrêmement fort, qui tient à la fois du Genet, du Manchette, par la dureté, la brutalité, même parfois la crudité, je pense notamment sexuelle, et en même temps qui est fondée sur une démarche narrative qui fait qu'il y a des flashbacks incessants, retour dans le passé, on passe d'une prison à l'autre.
Oui, nous parlerons alors plus en détail de tous ces livres, parce qu'ils sont trop nombreux, trop riches aussi, mais de quelques-uns de ces livres, et puis du style, et aussi du territoire, c'est-à-dire que le territoire a changé, hein, au long, parce qu'il y a aussi le fait que, puisque cette collection a duré et dure encore après un demi-siècle, l'histoire a changé aussi, donc je suppose que la collection change au fur et à mesure, et sinon elle ne serait pas ce qu'elle est. Mais auparavant, nous allons entendre une musique bretonne. Pourquoi ? Parce que d'une part, Pierre Aurégan est breton, je ne le savais pas, mais au fond, moi aussi j'ai de l'intuition et j'ai mis une musique bretonne pour vous. Mais surtout parce qu'il y a un des titres très importants, je crois, de la collection. D'une part parce qu'il s'agit d'un très très grand livre, d'autre part parce qu'il a joué un rôle dans une certaine querelle, fausse querelle autour du folklore et du pittoresque. Et ensuite, parce que je crois qu'il a dû sauver la collection, hein. C'est le livre de Pierre Jacques Elias qui s'appelle
Le Cheval d'Orgueil.
Cheval d'Orgueil, voilà. Alors, nous allons célébrer le Cheval d'Orgueil et la collection en même temps. Donc un livre capital, un mot peut-être sur le moment dans la collection où il est arrivé ce livre.
C'est un moment important dans la vie de ce couple qui est cette relation entre le directeur d'une collection, qui est un homme de l'ombre, et puis l'éditeur.
Vous êtes un homme de l'ombre, tout à fait.
Mais il faut bien l'être. Enfin, j'essaie de l'être.
Vous avez du mérite. Hein.
je démérite quelquefois ce titre. Mais il faut donc, dans une maison d'édition, qui est surtout une grande maison d'édition, il y a des courants. Et il faut, je dois dire, maintenir le cap. Et j'oserais dire que c'est dans cette navigation à long cours, les rôles se répartissent de la sorte. L'éditeur, c'est l'armateur.
Oui.
Et puis, le directeur de collection est le capitaine au long cours. Et il est seul maître à bord. Et il faut reconnaître que l'armateur prend de très grands risques. On prend un titre. Voyez-vous, lorsque Le Cheval d'Orgueil a été choisi par moi-même, j'ai découvert Père Jacques Elias sur Les Petites Lucarnes. C'était l'émission de Voisin, André Voisin, qui était un extraordinaire découvreur de talent, de conteur. Et j'ai senti en 15 minutes qu'il y avait derrière derrière le regard de cet homme et dans sa parole poétique qui faisait vivre les pierres, qui faisait chanter les genêts. Je sentais qu'il y avait un grand écrivain. Et je lui ai écrit, je me souviens, à Quimper, rue Robespierre. Et c'est ainsi que nous avons fait connaissance. Ce livre a été difficile à naître. Il a d'abord été écrit en breton, il le traduisait, et les chapitres arrivaient, je dirais, division après division pour constituer ce grand livre. Mais un éditeur existe, et il y avait donc le problème du titre. Et je disais, Le Cheval d'Orgueil. Oh, dans la maison, on disait, mais il est fou. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le Cheval d'Orgueil. Jamais nous n'aurons un succès. Ce qui fait que l'éditeur, c'était du temps d'un éditeur qui s'appelait Sven Nielsen, paix à son esprit, l'a lancé le 15 juillet. Il n'y avait aucune chance. Mais il y a l'opinion. Et si Terre Humaine a ainsi, disons, creusé son sillon, ce n'est pas l'université qui nous a soutenus. C'est la presse. Et derrière la presse, l'opinion.
Oui.
Cette opinion, ce peuple républicain qui sent que quelque part, l'université, l'anthropologie, la sociologie font fausse route. Et qu'il y a une pensée éclatée, il y a une pensée vive, une comédie humaine qui doit être exprimée par les auteurs eux-mêmes. Donc Le Cheval d'Orgueil, c'est Père Jacques Elias qui, comme vous le savez, fait parler son grand-père, Alain Le Goff, qui l'écoute d'une voix d'enfant, dans son parlant de son huis clos. Et donc ce livre apparaît dans sa magnitude. Et le succès est venu très tôt. Dès le livre est sorti le 15 juillet, dès le 15 septembre, 50 000 exemplaires avaient été vendus. Alors nous nous sommes réconciliés, Sven Nielsen et moi, et à la Maison de la Bretagne, où avait lieu le lancement du livre devant la presse. Je veux dire que la presse nationale française était totalement absente. Pardonnez-moi les quelques fois en retard. Il n'y avait que le journal La Bretagne à Paris. Il y avait l'éditeur, il y avait l'auteur, et moi-même, l'attaché de presse et ma femme. Mais il y avait 400 Bretons qui, avec ce gros livre sous le bras, ce livre de leur messe celtique, était là pour la dédicace.
Et ça a été un succès formidable.
C'est la Bretagne qui l'a soutenu, puis toute la province, et un succès tellement considérable, 1 500 000 exemplaires. Ceci peut rappeler Herckmann Chatrian. Le régionalisme était en train de naître, et la collection Terre Humaine a repris son élan, et nous avons 12 millions de volumes.
Oui, 12 millions de volumes. Et pour en terminer d'un mot avec Le Cheval d'Orgueil, il a connu une fortune internationale, et en particulier en Chine, hein, à tel point que Elias est allé faire un voyage en Chine, et on l'a reçu là-bas comme un mage, parce que c'était le seul homme qui savait parler d'un peuple paysan, les Chinois se considérant comme le deuxième peuple paysan de la Terre.
Et en Afrique noire, parce qu'il s'est interrogé dans son deuxième livre, que je tenais particulièrement à obtenir de lui, le quêteur de mémoire. Comment il enquêtait? Et Elias était un des deux grands conteurs de la collection. L'autre est un curé, le curé du Pays de Caux, l'abbé Alexandre. Et il était essentiellement un conteur. Et il savait obtenir l'audience du village ou des personnes qu'il allait enquêter parce qu'il il avait son prestige de conteur. Il est un des pères du Fest-Noz. Et il sait donc, dans ce peuple de littérature orale, faire naître cette pensée profonde. Et c'est les griots s'y sont retrouvés en Afrique noire et ont retrouvé dans cette pensée en mouvement, dans cette parole qui est extraordinairement surveillée, dans son rythme, dans son éloquence, ont retrouvé cette extraordinaire civilisation africaine qui est une civilisation en effet du conte et du conteur.
Nous revenons à la collection. Au départ, il y a quand même un grand éditeur à qui vous parlez. Vous lui dites voilà mon idée, un peu sur un coup du cœur comme ça, hein, une sorte de fulgurance. Et puis il est d'accord, il s'appelle Oringo.
J'étais en 1954, j'étais au jardin du Luxembourg avec ma femme et un petit garçon qui est aujourd'hui rédacteur en chef adjoint au Nouvel Observateur. Il avait 4 ans. Et je vous dis cela parce que c'est pour encourager les jeunes à aller de l'avant. Et je dis à ma femme, enfin, ce livre, Les Derniers Rois de Tulé, dont je n'ai toujours pas écrit une ligne, enfin, il faut même que je trouve un éditeur. Gallimard, c'était vraiment trop ambitieux. J'ai pensé à Albin Michel, j'admirais beaucoup la collection L'évolution de l'humanité, je connaissais parfaitement les titres, il m'avait inspiré lorsque je préparais le concours de l'école normale supérieure au lycée Henri IV. Mais enfin, c'est peut-être l'idée me dit plomb. Oui, plomb. Rue Garancière, président Poincaré, le maréchal Foch, Georges Clémenceau. Ça, c'est des valeurs sûres. C'est des valeurs sûres. Ils doivent être des conservateurs. Puis il y a Maurice Barrès, il y a Julien Green. Ce sont des conservateurs. C'est là que mes idées, disons un peu subversives, ces pensées marginales pourront avoir ce qui nous manque toujours en France, la durée. C'est dans la durée qu'une pensée se construit et qu'une œuvre se réalise.
Et Oringo a accepté. Et ensuite, vous avez
alors j'ai rencontré problème. En effet Charles Oringo, qui était un monégasque, qui m'a regardé de ses beaux yeux bleus et m'a dit en effet, vous avez raison, il faut non seulement votre livre, mais nous allons créer la collection Terre humaine. Alors, que voulez-vous ? L'histoire d'une maison d'édition est une histoire faite de haut et de bas. C'est souvent une histoire financière. J'ai connu 11 présidents directeurs généraux. 11.
Vous leur avez résisté quand même, hein ?
Oui, je dois dire, j'ai manœuvré. Ce sont mes humocs. Ce sont mes humocs. Mais nous nous entendons bien. Sinon, la collection ne se renouvelle pas. Mais il faudrait que l'opinion sache que c'est un contrat que je négocie sans cesse. C'est un contrat qui se renouvelle tous les 3 ans, 4 ans. Il me faut trouver de bons titres. Mais je ne veux pas non plus succomber, disons, à la au best-seller. Et quand j'ai eu ces doigts d'or, avec le Cheval d'Orgueil, 1 million d'exemplaires, Toi, nous, 500 000 exemplaires, La Carrière, 500 000 exemplaires, alors véritablement, j'ai été respecté. Mais mon idée, c'est qu'il est nécessaire de faire paraître des livres que l'on jugerait invendables. Aussi, et l'un pour moi, et c'est toujours une idée difficile à faire partager à l'éditeur, c'est que, prenons Zola, Émile Zola, carnet d'enquête que nous avons découvert, Mitterrand et moi-même, des inédits qui, 70 ans après, n'avaient pas paru. Bon, nous n'en avons pas vendu beaucoup, peut-être 3000, 5000, mais c'est des phares, et nous parlerons tout à l'heure de Hidji, il en est de même. Il y a des livres fondamentaux, Bastide, Le Cordon Bleu, c'est des livres fondamentaux. Ségalène, un livre de base que Plon ne voulait pas me permettre de rééditer, Les Immémoriaux. Il a fallu 20 ans pour qu'il ait le grand succès. La pensée, quand elle est profonde, demande du temps, mais c'est elle qui l'ouvre le chemin.
Nous avons dit un mot de La Carrière et de L'été grec est un magnifique livre. Nous allons retrouver La Carrière par le biais de la musique. Pierre Auregain, vous avez donc pris cette collection à bras-le-corps. Vous l'avez presque toute relue, j'imagine. Hein
toutes, oui.
Toutes, oui. Eh bien, alors, donc, vous avez une vue plus très bonne, parce qu'elle est un petit peu décalée par rapport à celle de Mallory lui-même, puisque lui, il était le nez sur la fabrication, sur la création, sur la rencontre d'auteurs. Moi, il y a deux choses qui me frappent, et vous allez me dire si je me trompe. La première, c'est qu'on s'aperçoit que il y a tout de même une ligne directrice très forte. Il s'agit toujours de peuples un peu oubliés, un peu marginaux, un peu à l'écart, parfois offensés d'ailleurs, humiliés, des minorités, des gens humbles aussi, les exclus, tout ça. Et vraiment, chaque fois, je me disais, oui, bon, ça, c'est... Mais on s'aperçoit que il y a une espèce de constante, hein, de monotonie de ce point de vue-là, et que c'est une belle monotonie. Et puis, la deuxième remarque que je ferai, et là, je suis plus surpris, c'est que cette collection me paraît, vous en avez dit un mot tout à l'heure, Jean Mallory, me paraît devoir être très mal vu des universitaires, parce qu'au fond, du point de vue sociologique, anthropologique, ethnologique, c'est une espèce de tonnerre par rapport à ce qu'on nous lit, à ce qu'on nous fait lire dans l'université. Et en particulier, par cette manière de style, c'est-à-dire qu'on dit « je », ce qui est scandaleux dans l'université, non ?
Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut reprendre la genèse de la collection en la replaçant dans le contexte qui a été le sien, c'est-à-dire au fond la prédominance sans partage quasiment du structuralisme qui, si on va privilégier essentiellement...
Structuralisme, c'était peu avant le structuralisme, non ?
Disons, le structuralisme, on peut le faire remonter à 1949, globalement,
ah, oui, bien
en
sociologie sûr, oui,
avec
oui.
Les structures élémentaires oui, de la parenté. Donc 1955, c'est Les Rois de Tulé, avec un récit épique à la Jules Verne, etc. Et l'affirmation d'une démarche effectivement résolument subjective.
Oui, mais il a fait mieux que ça, puisqu'il a capturé un structuraliste, le plus grand des structuralistes, il a capturé, voilà. Et il lui a dit, vous écrivez autrement maintenant. Mais, ça, c'est David Strauss. Voilà.
Mais en lui faisant faire son livre le moins structuraliste.
Ah oui, soit. Complètement.
C'est ça. Donc, en replacé dans ce contexte, on peut dire que la collection a une, à ce moment-là une force un petit peu, je dirais, polémique. Il s'agit de remettre en cause cette espèce de diktat, ce formalisme, cette approche des faits sociaux extrêmement quantitativiste, cette mise en équation des hommes et de lui substituer
Durkheim, donc c'est pas Durkheim hein.
Voilà. Et de lui substituer une approche narrative, c'est-à-dire qu'au fond, et ça c'est une grande constante de la collection qui s'est jamais démentie jusqu'au succès des Poilus aujourd'hui de Michel, c'est-à-dire on rencontre un peuple et on en rend compte à travers une histoire qui arrive à ce peuple et qui arrive à celui qui la regarde. Donc c'est toujours le récit d'une rencontre et d'une rencontre avec un peuple qui, effectivement, est un peuple en crise, à chaque fois, ou un groupe en crise. Alors, c'est par exemple, je pensais, les beaux témoignages de Bruce Jackson, le grand sociologue américain qui évoque l'univers carcéral. Alors, pour nous, aujourd'hui, ça semble une banalité, mais quand Jackson le fait, c'est 20 ou 25 ans avant que des démarches, disons, collectives, européennes, soient entamées contre la peine de mort. Et c'est quelqu'un qui publie un témoignage terrible sur le Distro.
Oui, et on donne la parole aussi aux gens qui n'ont pas de parole. Hein.
Voilà, exactement.
Le Soleil au Pif, finalement, par exemple, c'était un des premiers, hein, le Soleil au Pif.
Troisième,
oui. C'était tout à fait étonnant.
Voilà. Et alors, je l'ai replacé, enfin, j'ai aussi voulu insister sur le fait que derrière cette archive, finalement, de ces peuples et de ces minorités sans mémoire, il y avait une démarche qui rejoignait une démarche beaucoup plus, je dirais, méthodique et philosophique, qui était celle de Michel Foucault dans l'Histoire de la folie, faire l'archéologie.
Ça précédait.
Donc, d'une façon, certaine façon, Terre humaine a été pilote et pionnière, je dirais, en ce domaine. Bon, aujourd'hui, parler du grand retour du récit en ethnologie, bon, c'est quelque chose qui n'est plus révolutionnaire ou nouveau.
Mais sur le moment, Jean Mallory, les ethnologues, les universitaires ont un peu tiqué devant une certaine manière de parler des peuples.
C'est une guerre souterraine, mais elle est implacable.
Vous savez, elle est encore implacable ou bien vous parlez de...
Plus que jamais.
Ah bon?
Parce qu'il y a des postes. Vous savez, il faut comprendre cet univers singulier dont je fais part, dont je fais partie, qui est cet univers de l'université, des grands appareils, du CNRS, de l'Orstom. Enfin, c'est hautes maisons de recherche où on a le sentiment que les savants dialoguent, collaborent, diront en toute honnêteté et en toute fraternité. C'est pas ça du tout. Ce sont sans cesse des prises de pouvoir, car il faut assurer des postes aux disciples, aux jeunes chercheurs, il faut assurer la vie des laboratoires, et puis il y a des idéologies. Alors pour s'en tenir aux sciences sociales, il y a une grande équivoque repose sur tout un courant qui tient en effet à l'avance qu'a pris la linguistique et qui montre l'importance des structures. Et on a cherché, Lévi-Strauss est souvent trahi à cet égard. Lévi-Strauss, pardonnez-moi, triste tropique, avons été trop proches l'un de l'autre. La personnalité de Lévi-Strauss est très complexe. C'est un très grand écrivain. Et il n'est pas que l'auteur des structures élémentaires de la parenté. Mais des disciples se sont attachés à une analyse du structuralisme qui réduit le regard sur une société à des systèmes. Et il semble que l'informatique leur donne raison au point tel que l'homme n'est plus que numérisé, et je dirais même qu'il gêne. On pourrait donc construire un tableau d'une société sans que l'homme intervienne. Moi, j'appartiens à un tout autre courant. D'abord, je suis habité par ma formation de naturaliste. Et je sais combien la nature nous échappe. Elle est complexe, elle est difficile. Et puis, je suis un disciple de Lucien Febvre et de Fernand Braudel. C'est l'histoire totale. L'histoire totale, c'est l'école des hautes études. C'est tout ce mouvement de l'école des annales dont je fais partie, puisque depuis 50 ans, j'enseigne dans cette institution. Mais les sciences sociales ont suivi plus ou moins ou ont travesti ce courant. Ce qui fait que Terre humaine, qui met en action la pensée d'un Lucien Febvre ou d'un Braudel, c'est-à-dire de Mauss, c'est-à-dire le regard complet, ne peut pas être compris par ceux qui, en effet, veulent, au niveau du système, écarter l'auteur. Nous avons vu, il a été observé. Et à partir du moment, ce qui me paraît absolument nécessaire, où l'auteur dit « j'ai vu » et « je suis de tendance marxiste ou chrétienne ou libérale », à ce moment-là, ce qu'on appelle, ce qu'on invente, la communauté scientifique internationale, c'est-à-dire 3-4 amis qui sont de la même tendance, qui jugent, qui disent, à ce moment-là, c'est de l'anecdote. Je suis dans la mouvance d'un autre grand ethnologue, écrivain Michel Léris, qui dit, mais l'objectivité, nous ne pourrons jamais l'atteindre. Bien entendu, c'est le but. Mais ce qui ne peut pas être évité lorsqu'on regarde une société, lorsqu'on regarde l'autre, c'est son propre regard. avec sa personnalité. On projette. Le regard est donc habité. Il est donc nécessaire, dit Michel Liris, de tout dire, de mettre carte sur table. J'ai vu, je pense, je suis, je m'arrête. Donc, quand il s'agit de ces sociétés, ce sont des journaux de route et, naturellement, la subjectivité est l'objectivité. Alors, c'est d'autant plus vrai que dans les sociétés exotiques, nous sommes, nous, Européens, nous, Occidentaux, en situation, disons, étrangère. Et il est nécessaire de montrer tous ces tamis qui existent. Mais quand, dans Soleil Opie que vous avez évoqué, ou d'autres mémoires, il y a un mémoire d'un Indien Sioux, de Takahashi, nous avons en direct une pensée. Il ne faut pas oublier, il y a en direct une pensée. Mais c'est fallacieux. Takahashi, il y a d'abord, il y a une langue qui n'est plus sa langue, qui est la langue américaine. Donc il y a déjà une manipulation. Puis il y a l'éditeur, l'éditeur américain ou l'éditeur quelconque, qui construit un livre. Yanohama, par exemple, ce livre admirable de Ettore Bianchi, mais qui n'est pas d'Ettore Bianchi, qui est la confession d'Elena Valero. Elena Valero, qui avait épousé un de ces Indiens Yanomami, un sauvage d'une particulière violence, raconte toute sa vie. Et raconte sa vie, mais l'auteur construit ce livre et il découpe tout honnêtement. Et ce qui fait que dans le mouvement dramatique de cette œuvre, on a le sentiment que ces Yanomami sont tout le temps en guerre. On se demande quand ils dorment, quand ils songent, quand ils rêvent, c'est sans cesse. Et c'est le caractère, je dirais, presque épique. On a l'impression que dans une tragédie à la Sophocle, dans ce très, très grand livre. Mais ce livre, à ce titre, doit porter le nom du monteur, du réalisateur. Et ceci est vrai pour beaucoup de ces livres. C'est un livre est une construction. Et il faut tout dire pour que le lecteur qui, lui, a besoin non pas de lire une thèse, mais lui aussi de se songer et d'apprécier et de se faire sa propre opinion, il faut tout dire.
Je voudrais vous poser une question justement sur cette construction, sur la manière dont vous rencontrez vos auteurs. Et là, Pierre Horégan aussi aura des choses à dire. D'abord pour vous-même, vous n'avez, ce n'est pas une rencontre. C'est vous qui avez proposé ce projet de relecture et d'analyse, c'est peut-être pas le mot, parce que ça peut être péjoratif, après ce que nous avons dit sur l'université, mais de réflexion, en tout cas, sur la collection dans son ensemble. C'est un projet de vous, voilà, que vous avez soumis vous-même à un éditeur ou bien à Mallory.
Ce projet est issu d'un dialogue au fond avec Henri Mitterrand et une responsable éditoriale de notre université, et un projet qui est parti aussi avec la Caisse nationale du livre. Et on avait envie de faire un travail sur Terre humaine qui n'existe.
Alors, la question que je vous pose, voilà, qui vous concerne, mais qui est une réponse qui vaudra d'abord pour une réponse de Mallory lui-même et puis pour l'ensemble des livres. Est-ce qu'il a été un peu insupportable avec vous quand vous avez fait ce livre, Jean Mallory?
Non.
Vous ennuyez, vous avez dit ça, c'est pas bien, refaites-moi ça, non?
Non, pas du tout.
C'était très bien.
Bon, non, il a été très bien sous tout rapport. Non. Et nous sommes allés voir donc Jean Mallory en nous demandant s'il était d'accord pour, je dirais, pas co-diriger, mais pour être un peu. Disons, pour figurer ainsi qu'Henri Mitterrand, comme part un peu de ce projet. Et surtout, il m'a ouvert, je dirais, sa bibliothèque, les critiques qu'il avait conservées chez Plomb.
Voilà. Mais alors, je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. Oui. Parce que quand on parle de Terre humaine, et effectivement, il arrive souvent que je parle de Terre humaine avec des personnes, les gens parfois me disent « Oh oui, c'est toujours très très bien, mais il y a une raison à cela, c'est que Mallory est un fabuleux directeur de collection. » Et ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que je crois que là, par rapport au début du siècle, il y a peut-être un changement, c'est que l'éditeur est beaucoup plus indifférent à ce qu'il publie qu'il ne l'était jadis. Hein. Ça, Mallory, effectivement, est plus présent, plus intéressant. Mais est-ce que on me dit, oui, mais il exagère et il modèle, il terrorise, c'est pas vrai?
Vous savez,
écoutez, là vous le dites.
Moi, je suis ravi. Je suis devant un grand enquêteur. Soyons raisonnables. 80 livres.
je suis une grande partie de ma vie dans l'Arctique.
C'est vrai.
Alors, quand pensez-vous que je rewrite les écrits? C'est absurde. Et de personnages aussi.
Non, rewrite, non.
Alors quoi? Vous pensez quand même que un Claude Lévi-Strauss
non.
aurait accepté ah, que je lui pense... dise
écoutez,
voilà la direction?
Je
ça pense, n'a aucun sens.
Je pense que Claude Lévi-Strauss n'a jamais écrit comme il a écrit quand il a écrit chez vous.
Mon cher ami,
donc, qu'est-ce
l'histoire...
qui s'est passé?
Ah, mais je vous l'interrogerai. je répondrai par son propre écrit. Et dans cette élégante, car c'est un grand aristocrate et un maître de la langue, qu'il a écrite sur le Triste Tropique, qui est le premier livre qu'il a remis, une fois qu'il l'a reçu de l'éditeur. À Jean Mallory, à qui je suis obligé de m'avoir obligé à écrire ce livre,
donc,
etc.
Donc, vous donc, n'êtes, pas, il vous n'êtes pas un despote,
non.
mais vous êtes un incitateur.
Non, mais pardonnez-moi, la personnalité de Lévi-Strauss est si extraordinaire et si forte, et j'étais un si modeste chercheur à l'époque, que l'idée forte dont j'étais porteur, et qui venait de cette inuitisation avec ces peuples premiers, ne pouvait que rencontrer son adhésion. Et quand je lui ai demandé, car le cheminement s'est poursuivi, d'écrire la préface de Soleil Yopi,
oui.
il a été naturellement dans le même sens. Et nous avons été fraternellement dans la même direction. Que les auteurs ne soient pas tous d'accord dans mes choix, car le choix, c'est celui du directeur de la collection. Il n'y a pas de collection s'il n'y a pas de directeur. Une collection, c'est pas une série, c'est pas une bibliothèque de livres. Il y a une pensée. Le grand mérite de Pierre Horégan, c'est indépendamment de moi, et je puis l'attester publiquement, ça n'avait de sens, son livre, que si, en toute liberté, il écrivait son point de vue de jeune agrégé des lettres, de professeur, venant du monde de la littérature, regardant cette collection qui a si souvent été associée à l'ethnologie. Ils sont très minoritaires. Il y a Soustelle, Lévi-Strauss. Je ne suis pas ethnologue.
Balandier.
Balandier, sociologue. Car, pardonnez-moi, puisque ces critiques ombrageuses, je reçois 3 manuscrits par jour. Je publie 2 livres par an. C'est vous dire les amis que je me fais dans cet univers de penseurs. Oui, c'est ainsi. Mais il faut bien que cet homme de l'ombre choisisse. Et dans ce couple que j'ai avec l'éditeur, eh bien, il y a des moments un peu difficiles. Mais il y a des caractères, heureusement. La maison est fermement dirigée.
Mais dans le couple avec l'éditeur, vous dites. Mais dans le couple avec l'auteur.
Mais, attends, j'en termine avec l'éditeur. Il y a une confiance. Je rends hommage à Plon, 50 ans de confiance. Nous avons poursuivi notre route. L'un et l'autre étaient un roc, je suis resté sans cesse à leur côté. Avec l'auteur. J'écrirai un jour mes mémoires d'éditeur, si je peux user de ce terme à France Culture. Je ne suis pas éditeur, je suis directeur de la collection. L'éditeur, c'est Plon qui
oui.
prend les risques financiers, qui donne la durée. Qui réimprime, qui est la maison de où s'imprime ce livre. Il y a une pensée, et c'est pour la raison pour laquelle je suis si reconnaissant à Nathan, Henri Mitterrand et surtout à Pierre Horégan d'avoir découvert, décelé cette pensée souterraine qui anime les auteurs, car je ne suis pas un homme d'idéologie, je ne suis pas un homme de problématique. Je cherche à faire surgir, sourdre, une pensée intuitive. Et ma fonction est réellement une fonction de Mayotte. Je vais vous en prendre un exemple, le dernier. C'est Patrick de Clercq. Patrick de Clercq est un psychothérapeute qui est venu vers moi. À vérité, je suis venu vers lui, il avait écrit dans Esprit un court article sur les clochards. C'est-à-dire une société pas du tout comprise. On se demande véritablement si ces hommes pensent encore. Ce livre est à paraître, donc je peux en parler plus facilement. Il est venu vers moi et m'a exprimé son souci de parler d'antérieur humain. C'est un cheminement lent entre lui et moi. On se rencontre, je lui donne des indications, mais il continue son chemin. Et il écrit, il sent très bien, à partir du moment où oh mon Dieu, ce livre ne se connote plus dans la collection. Et très justement, Gilles Lapouge, vous avez fait remarquer cette singularité d'une collection, d'un livre qui connote l'autre. Quoi que vous fassiez, Triste Tropique est connoté par les immémoriaux de ces galères. C'est extraordinaire, ce pouvoir que une collection a sur la liberté de l'auteur, qui est quelque peu limitée par le fait qu'il est avec ce que Père Jacques Azéglias appelait si justement des camarades en terre humaine.
Jean-Malory, vous me rendez une minute de manière à entendre une musique qui, celle-ci, viendra d'Amérique du Sud, de l'Amazonie. Pierre Aurégan, cette vue globalisante que vous avez de Terre humaine, c'est dans l'espace, évidemment, c'est-à-dire la totalité de ce livre, mais c'est aussi dans le temps, puisque ces livres ont duré, durent, depuis près de 50 ans, et ils vont continuer à durer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire que les premiers livres ont un ton différent des suivants, qu'il y a une évolution ? Par exemple, il me semble, c'est pour ça que j'avais demandé cette musique, il me semble qu'au début, elle était plutôt plus lointaine par rapport à la France. Oui. Il me semble que ça, c'est une différence. Oui. Je vous dis deux choses, vous répondrez peut-être deux choses, qu'au début, il y a eu pas mal d'histoires de vie qui étaient un peu nouveaux en France. Hein. Ça venait, je pense, d'Amérique, les histoires de vie. Mais qu'après 80, peut-être, on en rencontre moins d'histoires de vie. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il est exact que la collection elle-même a été aussi une collection qui collait tellement à l'histoire que c'est une collection historique ?
Alors, collection historique, peut-être pas, mais une collection qui a une histoire effectivement propre, qui démarre par des peuples des lointains et des confins, les immémoriaux ou les rois de Tulé.
Ou l'Afrique.
Et, voilà, qui par un mouvement en quelque sorte centripète va, dans les années 70, revenir à des civilisations, à ces civilisations paysannes qui, au même moment, sont d'ailleurs, on peut dire, on le voit aujourd'hui rétrospectivement, en voie d'extinction, qui sont très menacées, et c'est le grand succès décisif, je crois. Qu'il est révélateur de la sensibilité collective et de la conscience collective. Bon, c'est 72, c'est un moment où effectivement il y a comme une cassure dans l'histoire de France, il y a eu 68, oui. etc. Et il y a la nostalgie effectivement d'une société rurale qui est en train de passer. Et là, c'est le coup de génie, un petit peu entre autres de Jean Mallory, d'avoir déniché Jacques Azéglias.
Voilà, je ne vais pas trop lui dire. Voilà. Attention, il est naïf, faites attention.
Alors effectivement, on va passer de ces peuples des lointains à ces peuples plus proches de nous, à ce paysan qui finalement est en train de disparaître, et en même temps aux hommes des métiers. C'est une dimension très importante dans Terre humaine, que de réhabiliter la main, le geste, l'homme, je dirais à la fois l'homme du travail, du laborare, et c'est Jean Reicher avec la pêche aux turières, c'est aussi ce témoignage bouleversant d'un serrurier, Claude Lucas. Et finalement, peu à peu, la collection va aussi devenir davantage parfois sociologique par ces témoignages, et en même temps s'ouvrir à des formules tout à fait inattendues, c'est-à-dire des villes. Retrouver l'âme des villes, je pense par exemple à Praga Magica,
plus très
proche
beau livre,
de nous, voilà, le livre de Fernandez sur le croissant baroque qui a surpris beaucoup de gens, qui se disaient mais que fait-il dans Terre humaine ? Il n'a pas sa place. Mais justement, Terre humaine invente, je crois, elle est ouverte, et en même temps, il ne faut pas oublier que, je dirais, ces peuples primitifs, hélas, ont d'une part été pour beaucoup largement étudiés, surétudiés, et sont en voie, je dirais, si ce n'est d'extinction, en tout cas pour certains d'assimilation. Donc, Terre humaine s'est tournée davantage vers une ethnographie, plus qu'ethnologie, rurale, et puis, aujourd'hui, de plus en plus vers ces périphéries des cités, ces exclus, ça sera le bouquin de Franck de Clercq, Les naufragés de l'espoir, c'est les travaux de Bruce Jackson sur les prisonniers. Il y a aussi tout un thème justement des emprisonnés,
oui,
qui est très important.
Et les clochards aussi. Voilà. Et dans la forme, vous voyez aussi une évolution ou bien...
Oui, moi je pense qu'il y a une évolution dans la mesure où les formules narratives qui avaient été initialement retenues, c'est-à-dire essentiellement l'étude, le témoignage, c'est le sous-titre de la collection, et le journal, journal d'un substitut en Égypte, etc. Ces formules vont s'élargir à l'essai, à des récits polyphoniques. Je pense par exemple à un ouvrage qui a eu un succès très, très relatif, c'est l'histoire des moulins occitans, qui est construit comme de manière polyphonique, comme une conversation
fantôme.
Je tiens
à ajouter, on l'a déjà dit, mais enfin je tiens à le dire de nouveau, c'est que parfois, pas tous évidemment, mais parfois ce sont de très grands livres, de la très grande littérature, de l'admirable littérature. Je pense à Elias, évidemment. Il y a aussi Lévi-Strauss, nous en avons beaucoup parlé, mais ouais. Il y a de très très...
La carrière.
Carrière, ça va de soi.
Il y a aussi Suerte, qui est un roman...
Oui, et puis alors l'admirable Edgy, par exemple, qui est quand même un des plus beaux livres de ce temps, il me semble. Vous avez peut-être 1 minute 37 secondes pour nous dire quelque chose.
Edgy est un livre, je dirais, tout à fait... d'ouverture sur un autre regard et que l'on doit avoir sur les sociétés. Je rappelle, c'est James Edgy, un écrivain, un journaliste, qui est envoyé dans les sociétés de l'Alabama, qui sont très pauvres, et il essaie, dans une première partie du livre, d'écrire de façon très personnelle et littéraire, et peut-être même épique, sur ces hommes qui sont en train de mourir. Puis, il voit que ça n'est pas suffisant. Alors, c'est ethnographique. Alors, il décrit... à la fin, il se dit, « Oh, mon Dieu, je devrais ajouter un peu de coton, un peu de terre dans
c'est
le
ça,
livre. »
Magnifique.
Et ceci irait plus loin. Et il comprend qu'il y a une autre dimension qui manque. Et pour la première fois dans l'histoire de la littérature, il y a le photographe. La photographie de Walker Evans. Là, je crois que James Edgy, qui est pas assez reconnu dans le monde des sciences sociales comme un livre d'avant-garde qui est dans la dimension de Melville. Et pour répondre à votre question, c'est une collection de généralistes qui donnent la parole à ceux qui ont observé et qui se compromettent. Et c'est là où le ton intervient. Pierre Oregon a oublié de parler des pamphlets.
Il n'a rien oublié parce
Galliano,
que nous n'avons plus le temps de l'écouter davantage. Je rappelle le titre de ce livre, Pierre Oregon, Des récits et des hommes, Terre humaine, un autre regard sur les sciences de l'homme, publié chez Nathan et Plomb à la fois. Et nous avions la chance d'avoir Jean Mallory avec nous. Ainsi se termine En étrange pays. La prise de son est de Sophie Moreno et de Pascal Dupont.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 mars 2001.